Le 13-14, Bruno De Vic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, la justice contre la terreur. Le procès des attentats du 13 novembre s'ouvre sur l'île de la Cité à Paris. Premières images, paroles, récits avec nos envoyés spéciales. Paroles de victimes aussi au moment de l'ouverture. Il y a 6 ans, Thierry était au Bataclan.
On allait boire de la bière, écouter du rock'n'roll. Ceux qui étaient en terrasse, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient entre amis, en train de boire. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Rien. Et on s'est fait arroser? Non, franchement... Non.
Nous entendrons également l'un des avocats de la défense, regard de la presse étrangère sur ce moment, et puis éclairage différent. À 13h45, une victime parle à Frédéric Pommier d'une musique qui l'accompagnera, la voix de Louis Armstrong. Dans l'actualité encore, l'ouverture du rail à la concurrence, cela devient concret, le groupe Transdev doit être choisi sur la ligne Nice-Marseille. AXA offre 2 jours de congés supplémentaires à ses salariés après la crise Covid. Anne Hidalgo, candidate à la présidentielle, annonce attendue dimanche à Rouen. Autre postulant, Fabien Roussel, pour le Parti communiste, un homme de gauche qui veut aussi parler de sécurité, de laïcité, de souveraineté. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions. C'est à 13h30. La météo, gare aux orages sur une large bande de l'Occitanie à l'Île-de-France. Et puis nous sommes mercredi, jour de cinéma. La sélection de Corinne Pellissier, quelques mots-clés, Mathieu Amalric, humour espiègle et restaurant. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
La différence entre la civilisation et la barbarie, c'est la règle de droit. Ce sont les mots du ministre de la Justice alors que le procès des tueries de masse du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis vient de s'ouvre sur l'île de la Cité où ont pris position 630 policiers à Paris. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour Bruno.
En direct du Palais de Justice pour France Inter, la salle d'audience construite pour l'occasion peut accueillir 550 personnes, 20 accusés, 14 seront présents, dont Salah Abdeslam, seul survivant des commandos de ce terrible 13 novembre, Sophie.
Oui, Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos kamikazes du 13 novembre qui est arrivé en dernier dans l'immense box de verre de cette salle d'audience construite spécialement pour ce procès. Il était encadré de plus de gendarmes que les 13 autres accusés présents. Il est le seul à être resté debout au début à parler avec son avocate Olivia Ronen. Salah Abdeslam, l'accusé vers qui tous les regards sont d'abord braqués, porte un t-shirt noir. Il est vêtu tout de noir. Il a les cheveux gominés, tiré en arrière. Autour de lui, tous les accusés sont masqués et on voit des barbes qui dépassent des masques, des accusés dont certains portent des chemises bon chic, bon genre. Il y a parmi ces accusés des logisticiens, il y a des absents aussi, des commanditaires présumés morts en Syrie et puis 3 accusés sous contrôle judiciaire qui sont arrivés libres mais encadrés de gendarmes aussi, ce qui est tout à fait exceptionnel dans ce genre de procès où l'audience devait démarrer à 12h30 mais elle a pris du retard pour le moment.
Sophie Parmentier en direct du Palais de Justice avec Frédéric Kérou pour France Inter. Les audiences sont filmées et retransmises dans 11 autres salles au Palais. Les attentats à Saint-Denis, au Bataclan, aux terrasses des 10 et 11e arrondissements de Paris ont provoqué la mort de 130 personnes, 1300 blessés dans leur chair et dans leur âme, selon la formule de la justice. En tout, 1800 parties civiles victimes assisteront partiellement ou totalement au débat. Alors parole à eux au moment où tout commence, ce matin. Sur l'île de la Cité, Gaëtan Honoré, qui était au Bataclan, s'est confié à Charlotte Piré.
C'est vertigineux. Il n'y a pas d'autre. Enfin, je pense sincèrement. Je pensais être assez prêt émotionnellement. Mais en fait, non, ça vous replongeait immédiatement là-dedans. Et puis avec cette ambiance un peu de hors du temps, quoi, avec ce monde et cette effervescence, c'est vraiment une expérience à laquelle je n'étais pas forcément prêt. Mais bon, après, ça fait partie du truc. Mais c'est vrai que c'est déroutant tout ce monde, quoi. La justice a été largement à la hauteur, j'ai l'impression, pour le moment, de l'enjeu de tout ça. Donc c'est toujours aussi sécurisant d'avoir la force de l'État. Après la reconnaissance, la force de l'État qui peut se mettre en place une telle organisation, je trouve qu'ils ont vraiment mis pour le moment les moyens à la hauteur, quoi, des enjeux et puis des malheurs vécus ce soir-là.
Pendant 9 mois, la circulation autour du palais de justice sera interdite, les déplacements des piétons filtrés. La menace d'attentats en France est particulièrement élevée, a rappelé ce matin le ministre de l'Intérieur sur France Inter. 50 attentats depuis le début du quinquennat, 36 déjoués, 14 ont provoqué des morts. Menace encore plus élevée à l'ouverture de cette page de l'histoire judiciaire. Quelques 2000 personnes sont attendues chaque jour sur l'île de la Cité. Les parties civiles, les victimes et proches, les avocats. Charlotte Piré, avec Sophie, vous nous ferez vivre ces 9 mois. Ce matin, Charlotte, à l'extérieur du tribunal, la tension était toute particulière.
Oui, les premières personnes sont arrivées vers 6h du matin sur cette île de la Cité, à l'arrière du vieux palais de justice, par l'entrée dédiée pour ce procès. Journaliste tout d'abord pour les premiers directs, dont vous l'avez peut-être entendu, France Inter. Avocat de partie civile ensuite, puis progressivement les victimes elles-mêmes. Elles ne sont pas très nombreuses aujourd'hui, mais certaines ont tenu à faire le déplacement pour la force symbolique de ce premier jour. Et puis ils sont venus les avocats de la défense, ils sont une trentaine, et enfin les accusés. Pour chacune des personnes qui souhaitent accéder à la salle des pas perdus où a été construite cette salle d'audience hors normes, de nombreux contrôles de sécurité, des portiques comme ceux que l'on peut voir dans les aéroports ont été installés spécialement, un détecteur de substances radioactives également. Et on l'a entendu dans les propos de Gaëtan Honoré juste avant moi, la foule est immense, du jamais vu dans ce palais de justice. Mais hormis le retard au démarrage de cette audience, tout se passe calmement, aussi sereinement que possible finalement, eu égard aux enjeux de ce procès. Un peu comme si le caractère historique de ce procès, le poids de l'histoire, disait un avocat, et le besoin impérieux pour tous qu'il se déroule dignement, imposait le calme pour chacun.
Parmi les 330 avocats, une trentaine auront la lourde charge de défendre les accusés. Parole à l'un d'eux, Christian Saint-Palais, le président de l'Association des avocats pénalistes. Il défend Yassine Attar, frère du commanditaire présumé, lui-même soupçonné d'avoir aidé à cacher Salah Abdeslam dans une planque où ont été fabriquées les ceintures explosives. Maître Saint-Palais est avocat au barreau de Paris. Question-réponse ce matin, juste avant l'ouverture, avec vous, Charlotte. D'abord, comment aborde-t-il cette première audience ?
Ah bien, là, on mesure vraiment l'attente qui existe autour de ce procès. Ce sont des mesures de sécurité tout à fait exceptionnelles. C'est un nombre d'accréditations de journalistes manifestement très élevé. Nous savions que ce dossier était particulier par le nombre de pages de ce dossier. C'est un dossier extrêmement volumineux. Alors là, nous sentons cette attente-là, mais nous avons un devoir, nous les avocats. Nous avons accepté de défendre des hommes. Et donc, mon devoir, c'est de garder le cap et d'être à la hauteur de ses attentes. Je dois défendre ses intérêts, ce dossier le permet, et donc c'est à ça que nous devons veiller.
C'est un procès qui va forcément être un peu difficile pour la défense, notamment parce qu'il y a un effet numérique entre le nombre de parties civiles et le nombre d'avocats de la défense et d'accusés. Il y a aussi l'enjeu émotionnel qui est très présent. Comment est-ce que vous l'appréhendez de ce point de vue-là ?
Bon, je crois que dans un procès, il faut laisser la place à l'émotion. Les parties civiles ont leur place, bien sûr, et elle leur sera accordée. Mais le procès a un but. Ça, nous ne devons jamais l'oublier. Le but de ce procès, c'est de juger les 20 hommes qui sont renvoyés par l'accusation, pensant qu'ils sont coupables à des degrés divers de responsabilité. La cour d'assises, elle a cet objet-là, cette finalité, savoir si ces hommes, dont beaucoup se disent innocents, je défends un homme qui se dit innocent, et donc il va falloir répondre à des questions sur la culpabilité. Donc nous allons entendre les victimes pour mesurer la gravité des faits, parce que ça n'est pas indifférent à la sanction qui sera prononcée ultérieurement, mais nous devons garder ce que j'appelle le cap, le sens du procès, et nous allons tous y veiller. Vous savez, nous avons déjà été confrontés à des procès très chargés émotionnellement, je pense au procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Peut-être vous souvenez-vous que les avocats de partie civile se sont alliés à certains moments aux avocats de la défense pour maintenir ce que nous considérons être le socle d'un état de droit, le contradictoire, la présence de l'accusé dans le box, le temps nécessaire qui lui est accordé pour se défendre. Voilà, tous ensemble, nous allons veiller à cela. Bien sûr, il y a une émotion particulière. L'émotion ne doit pas tout emporter. La raison aussi va devoir dominer la réflexion de la cour d'assises au moment de juger.
Plus encore que le procès des attentats de janvier 2015 dont vous parliez à l'instant, ce procès-ci va être scruté par la France entière, peut-être même le monde entier, en tout cas c'était les propos du garde des Sceaux. Est-ce que c'est une pression particulière pour vous, avocat de la défense dans cette salle ? Est-ce qu'on parvient à oublier cette pression-là ? Comment est-ce qu'on le gère à titre personnel ?
Eh bien, très sincèrement, je crois qu'on arrive à l'oublier. Moi, ce qui me préoccupe, c'est d'être à la hauteur de ce procès très important et d'exercer la défense dans des conditions que chacun s'accorderait à qualifier de à la hauteur des exigences du barreau. Très sincèrement, c'est ma préoccupation. Et puis, dans mon dos, il y aura un homme qui demande que je le défende. Alors lui aussi a des exigences à mon égard. Oui, vraiment, nous sommes très concentrés, nous devons nous obliger à cela. Il ne faut pas, nous non plus, avocats, que nous nous laissions étourdir par ce tapage à l'extérieur, qui est un tapage justifié, bien sûr, cette attente, cette avidité d'information. Nous devons rester à notre place. Si chacun occupe pleinement sa place, eh bien ce sera un procès, on parle beaucoup de procès historique, nous ne le saurons qu'à la fin. Sont à la fin, si ce procès mérite d'être qualifié d'historique, si chacun exerce sa fonction pleinement et avec les qualités qu'on attend de lui, eh bien ce sera un procès historique.
Les mots de l'avocat Maître Saint-Palais auprès de Charlotte Piré avant d'entrer dans la salle d'audience. Trois avocats généraux porteront l'accusation. Le monde entier nous regarde, dit en effet Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. C'est une formule, mais pas seulement. Mathilde Vinceneuve, vous êtes, vous aussi, l'envoyé spécial de France Inter pour ce procès, pour assister à ces audiences qui essaieront d'éclairer l'un des moments les plus terribles du terrorisme international depuis le 11 septembre 2001. Il y a des dizaines de journalistes internationaux.
Oui, devant les grilles du palais, il y a plusieurs rangées de caméras, de micros, et les directs se font dans toutes les langues.
The only known survivor, Salah Abdeslam, is now in the courthouse behind me.
Was ganz interessant ist, dass die Opfer und die Angehörigen der Opfer.
Vous entendez les télévisions allemandes, américaines, des télévisions de Dubaï. Il y a aussi des médias suédois, danois et belges pour ce journaliste. De radio belge, justement, ce procès a un écho particulier vu de Bruxelles.
C'est un procès important avec tous les accusés belges, des enquêteurs belges qui vont témoigner ici. Et après, on aura le procès des attentats à Bruxelles après ce procès-ci. Donc, on est parti pour longtemps.
Ce procès des attentats du 13 novembre 2015 est évidemment très suivi en Europe, mais aussi au Japon. Ce journaliste japonais va suivre les premiers jours d'audience.
Avec tout ce qui s'est passé en Afghanistan, je pense que la menace terroriste, elle est toujours là. Le public japonais aussi va continuer à suivre le procès avec beaucoup d'intérêt.
Alors tous ces médias étrangers ne resteront pas pendant les 9 mois du procès, mais ils ont prévu de venir régulièrement pour assister au moment fort.
Mathilde Vinceneuve en direct du Palais de Justice de Paris, de l'île de la Cité, alors que Salah Abdeslam a pris place dans le box des accusés, tout vêtu de noir, nous disait tout à l'heure Sophie Parmentier. Sur France Inter et franceinter.fr, nous mettons en place un dispositif exceptionnel, vous l'aurez compris, aujourd'hui un tweet sonore, toutes les heures, témoignages de victimes ou proches de victimes, les récits à la radio et sur le web de Sophie Parmentier et Charlotte Piré, les dessins d'audience de Valentin Pasquier, deux angles supplémentaires sur franceinter.fr, le profil des 20 accusés, les 10 questions clés du procès. Et puis en podcast, 13 novembre, l'enquête, la série référence de Sarah Guibaudot, enrichie d'un nouvel épisode à 13h45. Autre façon de vivre ce procès, une rescapée du Bataclan par la Frédéric Pommier d'une chanson qui l'accompagnera dans les semaines et mois à venir. Le contexte international en ce moment est un peu moins la guerre en Syrie, comme à l'époque du 13 novembre, que la prise de pouvoir des talibans à Kaboul, talibans qui ont présenté hier leur gouvernement encore incomplet, disent-ils, aucune femme. Le Premier ministre est un proche du fondateur du mouvement, le Mollah Omar, qui est mort en 2013. C'est le retour du ministère pour la promotion de la vertu et la répression du vice. Et les nouveaux maîtres ont affronté des manifestations hier. 2 personnes tuées par balle à Herat. Les manifestants accusaient notamment le voisin pakistanais, proche des talibans, de s'ingérer dans le pays. Pour l'instant, la frontière dans la zone tribale ne laisse passer que quelques camions d'aide alimentaire. Et au Pakistan, le départ des Américains a des conséquences à Peshawar, la grande ville à la frontière. Les commerçants manquent de certains produits qui se vendaient bien quand les camions US passaient la frontière. Reportage de l'envoyé spécial de France Inter, Mathilde Dehimi.
Sur le marché de Sitara, le kaki se mêle aux produits d'hygiène devant les échoppes comme celle d'Abdourahman.
J'ai vu passer toutes les cargaisons de l'OTAN et toute la logistique pour l'Afghanistan.
Les camions américains et l'OTAN arrivaient par le port pakistanais de Karachi, traversaient le pays jusque Peshawar et la frontière pour livrer les bases militaires en Afghanistan. Des stocks étaient volés, repassés clandestinement ici au Pakistan. Une qualité de produit inégalée qui a pris fin avec le retrait des troupes internationales. Abdourahman répugne à reconnaître la provenance de certains produits.
On vend de tout, des produits électroniques, informatiques et des équipements militaires. La plupart viennent désormais de Chine, mais quand la frontière était ouverte, on avait beaucoup de marchandises étrangères en provenance d'Afghanistan, du Japon, de Dubaï. Des produits d'occasion aussi, notamment d'Allemagne et de Dubaï.
Zimetran replace sur le côté une paire de Rangers américaines. Il ne veut pas croire à la fin d'un âge d'or.
Avant, beaucoup venaient ici depuis Lahore, Islamabad, Karachi pour trouver des produits importés. Maintenant que le flux des marchandises s'est réduit, il y a bien moins de monde. Les Américains de l'OTAN sont partis, mais pas leurs affaires. On devrait bientôt les retrouver ici.
Les marchands de Sitaras surveillent de près la situation de l'autre côté de la frontière. L'instabilité afghane est mauvaise pour les affaires. Peshawar, Laurent Maketti, Mathilde Dehimi, France Inter.
À propos du gouvernement taliban, l'Union européenne déplore une équipe ni inclusive ni représentative. La Chine salue de son côté la fin de l'anarchie avec la nomination de ce gouvernement.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
La concurrence sur le rail en France devient concrète sur la ligne régionale Nice-Marseille. La SNCF sera bientôt remplacée par Transdev. L'Assemblée régionale de PACA doit encore voter, mais la région fait savoir que le choix est fait. Manuel Ruffez, la petite révolution commence en 2025.
Eh ben oui, ça y est, c'est la fin actée du monopole de la SNCF sur ces lignes TER. Le résultat de l'ouverture à la concurrence souhaitée par l'Europe, qui a commencé par le fret en 2006, puis le transport ferroviaire international en 2009. Pour les trains régionaux et intercités, les appels d'offres sont possibles depuis 2 ans, on le voit, mais ne seront obligatoires qu'à partir de décembre 2023. Et donc, effectivement, à partir de 2025, c'est bien un autre groupe français, mais plus l'opérateur public historique, Transdev, qui va exploiter cette ligne de 160 km, Marseille-Nice via Toulon. Une concession de 10 ans pour un contrat d'un montant de 870 millions d'euros pour Transdev, qui a promis pour le même prix de doubler les allers-retours et qui va devoir maintenant acheter le matériel et construire un atelier de maintenance. Transdev transporte déjà dans 17 pays 11 millions de passagers par jour en bus et en train. Les cheminots, eux, seront transférés chez Transdev dès que leur taux d'affectation chez le nouvel opérateur dépassera 50%. Les autres pourront choisir. La négociation n'est pas encore terminée, mais ils pourront conserver une grande partie de leurs acquis.
Et après le Sud, le Nord, prochain appel d'offres dans les Hauts-de-France. L'ouverture de la SNCF à la concurrence pour les trains régionaux, c'est une des réformes du quinquennat Macron. Quelle réforme dans les un peu plus de 7 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle? C'est l'objet d'un séminaire gouvernemental qui se tenait ce matin à l'Élysée. L'actualité politique, c'est encore l'annonce imminente de la candidature d'Anne Hidalgo à la présidentielle. Ce sera dimanche à Rouen. La maire de Paris publie la semaine prochaine un livre intitulé « Une femme française ». Et puis en politique, encore cette question « Qui ?» pour présider la très influente Association des maires de France. Élodie Forêt, aujourd'hui à la date limite de dépôt des candidatures, alors que François Baroin s'apprête à quitter son poste.
Entre Emmanuel Macron et l'Association des maires de France, la relation sous François Baroin n'a pas été un long fleuve tranquille. Pendant la crise sanitaire notamment, l'AMF a à maintes reprises dénoncé la supposée déconnexion du président. Une opposition forte que revendique un proche du socialiste, André Léniel, candidat à sa réélection à la vice-présidence, en binôme avec le LR et ex-filloniste David Lisnard. Un duo adoubé par François Baroin mais qui provoque des remous parmi les mécontents, principalement des maires de centre-droit Macron compatibles qui jugent Lisnard et Léniel trop clivants et se sont donc trouvés un autre champion, l'UDI, Philippe Laurent, actuel secrétaire général. Face à David Lisnard qui n'a toujours pas fermé la porte à une participation à la primaire de la droite, le maire de Sceaux veut lui incarner l'indépendance.
Il faut porter une indépendance de l'AMF, ce qui nécessite qu'elle soit la seule ambition du futur président à l'égard à la fois des ministres, du gouvernement et d'administration centrale.
Dépolitiser l'association donc quand David Lisnard, lui, n'hésite pas à s'en prendre à Emmanuel Macron encore récemment sur Twitter, l'accusant d'opposer les populations. Entre ces deux approches, les 35 000 maires de l'AMF devront trancher.
Entre politique et justice, Éric Zemmour sera-t-il condamné pour injure et provocation à la haine après avoir parlé d'inversion de la colonisation à propos de l'immigration et l'islam en France, extermination de l'homme blanc hétérosexuel catholique? C'était en septembre 2019 à la convention de la droite organisée par Marion Maréchal Le Pen. Il a été condamné en première instance à 10 000 euros d'amende. La décision en appel est attendue. Par ailleurs, toujours ce mercredi, le journaliste et essayiste possible candidat à la présidentielle doit passer devant le tribunal pour d'autres propos sur les mineurs isolés en France qualifiés d'assassins et de violeurs. L'audience pourrait être reportée. Ce qui suit en revanche est tellement gentil que l'on s'interroge. L'assureur AXA offre 2 jours de congés de bonus à ses 120 000 collaborateurs, façon de les remercier pour les efforts pendant la crise sanitaire. Bonjour Philippe Lefebvre.
Bonjour.
Comment analyser cette annonce ?
Bah alors, côté face, il y a effectivement, vous le disiez, hein, la bonne nouvelle pour les 120 000 salariés d'AXA à travers le monde. Il y aura une journée de congé à une date choisie par le salarié et une autre date qui sera imposée par l'entreprise. Et tout cela, dit l'assureur, pour remercier les équipes pour le travail effectué durant la crise et pour que les salariés prennent soin, je cite toujours, de leur santé physique et mentale. Et puis, il y a le côté pile. Et oui, il y a un coup de com' derrière tout ça, car l'assurance santé, c'est l'axe de communication prioritaire et l'axe économique prioritaire d'AXA pour l'avenir, et vendre de l'assurance santé en montrant qu'on prend soin de la santé de ses collaborateurs, c'est plutôt malin. Et puis il y a aussi la volonté de l'entreprise de changer son image, de la rendre plus humaine au moment, par exemple, où se poursuivent les négociations sur les indemnisations des restaurateurs, hein, qui avaient perdu beaucoup d'argent au moment de la crise Covid. Enfin, il faut quand même le savoir, AXA n'est pas la première entreprise à montrer à quel point elle tient à la santé de ses employés. La banque américaine Citigroup, Nike, Bumble ont déjà offert des jours de congé, et LinkedIn a fait encore mieux en avril dernier, en mettant ces 15 900 salariés en vacances pendant une semaine en même temps.
L'actualité économique, ce sont aussi de nouveaux bons chiffres sur le marché de l'emploi. L'emploi salarié plus 1,4% au deuxième trimestre, 265 000 créations nettes. Hier, l'INSEE a relevé sa prévision de croissance pour cette année, un peu plus de 6%. Et à propos d'économie, cette information surprenante. La perte de biodiversité est une mauvaise nouvelle pour le monde de la finance aussi. Bonjour Célia Kiré.
Bonjour Bruno.
C'est une étude de la Banque de France. Expliquez-nous.
Oui, je vous donne un chiffre impressionnant. 42% des titres détenus par les banques françaises dépendent de la biodiversité. Si elle s'effondre, c'est près d'un titre sur deux, action ou obligation, qui est menacée. Et la raison est assez simple. Ces banques financent des entreprises qui elles-mêmes dépendent de la bonne santé des écosystèmes. Pierre Dubreuil dirige l'Office français de la biodiversité qui a participé à cette étude.
Et si l'érosion de la biodiversité s'accélère, s'il y a des problèmes d'eau, s'il y a des problèmes d'extinction de certaines espèces, vous avez un problème de risque d'approvisionnement et de fonctionnement de l'économie réelle. Donc finalement, tout le système financier est dépendant de la nature, des facteurs naturels et des risques naturels, et en l'occurrence de la bonne santé de la biodiversité.
Or, la finance est responsable en partie de cet effondrement. C'est un autre résultat de l'étude. Si on fait le total de la valeur des titres détenus par les banques françaises, ils contribuent par leur financement à l'artificialisation du quart du territoire français. Et ce risque doit amener à une prise de conscience. Julien Callas est économiste à l'Agence française de développement.
C'est un risque à la fois pour le système financier, les banques, mais aussi tous les gens qui investissent l'épargne des retraites, les petits épargnants. Ça fait rentrer le secteur donc financier dans l'ère de la prise en compte de la perte de la biodiversité. Et surtout, pas seulement de les menacer, ça leur permet d'avoir des outils pour savoir comment réagir à ce risque et peut-être commencer à être un acteur pour justement être moins dépendant et être moins le financeur des pressions ou des acteurs qui sont la cause de l'effondrement de la biodiversité.
Et pour les auteurs de cette étude, dont la Banque de France, la solution est de réorienter certains investissements vers des actions positives pour la biodiversité. C'est presque le discours des ONG.
Encore deux morts par balle à Marseille, deux fusillades, quartier de la Porte d'Aix et cité de la Renaude. C'était hier soir. À présent, l'histoire d'une ascension et d'une chute, comme on en voit parfois aux États-Unis. Elle s'appelle Elizabeth Holmes. Elle a 37 ans. Elle a fait fortune en fondant une start-up, une entreprise dans le domaine médical, alors qu'elle avait à peine 20 ans en 2003. Mais elle affronte maintenant un procès à San José, en Californie. Que s'est-il passé ? France Inter aux États-Unis, Sébastien Paour.
Quand elle crée Theranos en 2003, elle est présentée comme la nouvelle Steve Jobs. Elle a 19 ans, elle vient de sortir major de sa promotion en chimie à la prestigieuse université de Stanford, et son entreprise assure qu'elle a mis au point une méthode d'analyse sanguine entièrement automatique, une goutte de sang, 1000 analyses en quelques heures, rapide et pas chère. Les investisseurs se pressent, Rupert Murdoch met 125 millions de dollars dans l'affaire, et en 2015, Forbes la présente comme la plus jeune milliardaire au monde à ne pas avoir hérité fortune estimée. 4,5 milliards de dollars. Mais la même année, un journaliste du Wall Street Journal a des doutes. John Carreyrou révèle que la technologie ne marche pas et que Theranos sous-traite ses analyses. Le voici sur CBS.
One patient was told by Theranos that she was HIV positive.
Theranos a dit à une patiente qu'elle était séropositive, alors qu'elle était sans doute en bonne santé.
When in fact she was perfectly healthy. Several other patients.
À plusieurs autres qu'elle n'était plus enceinte, alors que leur grossesse était parfaitement viable.
Pregnancies were perfectly viable.
Theranos a fermé il y a 3 ans. Elizabeth Holmes risque 20 ans de prison. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Cette histoire fera peut-être un jour l'objet d'un film, mais nous avons d'autres longs métrages à vous proposer pour ce mercredi. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
Votre sélection cinéma de ce mercredi, on démarre avec un coup de cœur, Serre-moi fort de Mathieu Amalric.
Voilà son 8e film de réalisateur après Tournée, Barbara, c'est l'histoire cette fois d'une femme qui s'en va. C'est un film sur l'absence, un film qui déroute avec une charge émotionnelle très forte. En prévoyez Bruno, un petit Kleenex, car c'est un vrai mélo avec en fond le quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen. Une histoire construite aussi comme un puzzle autour de souvenirs qui s'articulent avec le présent, des personnages qui se répondent en canon. Mathieu Amalric ne joue pas dans le film. Cette fois-ci, il a laissé la place et même la vedette à Vicky Krieps qui crève l'écran littéralement. C'est la nouvelle star montante du cinéma européen qui nous avait bluffé déjà dans des films de Paul Thomas Anderson ou Mia Hansen-Love. Et elle est vraiment d'une justesse épatante dans le rôle de Clarisse, donc cette jeune femme qui s'en va.
Serre-moi fort, Mathieu Amalric. Au cinéma également cette semaine, Corinne, Les Méchants, Mouloud Achour sort son premier film.
Ouais, et le résultat est à son image un peu espiègle, très culture geek, rempli de copains. Vous allez retrouver ici toute la bande du collectif Courtrage-Mé et même quelques vedettes, Ludivine Sagnier ou Marcy, Mathieu Kassovitz qui est à mourir de rire, hein, vraiment dans le rôle d'un réalisateur tolérant, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, invité sur les plateaux de chaînes d'infos continues, totalement à contre-emploi, vous l'aurez compris. Anthony Bajon aussi, toujours formidable dans le rôle cette fois d'un rappeur. L'histoire, un côté un peu foutraque, très manga dans sa réalisation et même cliché hein, par moments, mais c'est fait avec beaucoup de tendresse et surtout des moments vraiment drôles autour de personnages un peu losers. Sébastien, le youtubeur, Patrick, le gérant de magasin de jeux vidéo, ils vont se retrouver propulsés un jour en une des JT sans trop l'avoir vu arriver. Comme chez Bruno Dumont, avec France, on se moque beaucoup des chaînes d'information continue, avec plein de vannes, de punchlines façon stand-up. Tout le monde va en prendre pour son grade. Les bobos, les barbus, les mangeurs de carottes bio, jusqu'aux buveurs de jus antioxydants. Mais tout ça avec un message, le méchant n'est pas toujours celui que l'on croit.
Du beurre, voyons, du beurre! Faut faire bien, faire grand, faire savoureux.
Si vous avez 2 minutes, le duc aimerait faire son commentaire.
Du beurre après les carottes bio, on se met en appétit avec la voix de Grégory Gadebois à l'affiche du film Délicieux, hommage au restaurant resté fermé en quelque sorte pendant le mois pour cause de Covid.
Voilà, le film raconte au XVIIe siècle l'avènement du tout premier restaurant avec Grégory Gadebois en chef cuisinier chez le comte Champfort, Benjamin Laverne, jusqu'au jour où patatrac, le voilà qui ose servir à table une bouchée à base de truffes et de pommes de terre. Alors ce qu'on paierait très cher aujourd'hui est beaucoup trop punk pour l'époque, donc c'est la porte. Et Grégory Gadebois va devoir se réinventer dans le petit relais de poste que tenait son père autrefois pour en faire à la place le premier lieu de création, de plaisir et de partage autour de la cuisine.
Délicieux, Serre-moi fort et Les Méchants, c'est la sélection de Corinne Pellissier pour ce mercredi, sélection au cinéma. Autre information, c'était à 13h17, le procès des attentats du 13 novembre est officiellement ouvert désormais. Sophie Parmentier nous racontait au début de ce journal l'entrée de Salah Abdeslam dans le box tout vêtu de noir. Nous suivrons évidemment toute la journée la tenue de ce procès. Dans un instant, la météo, puis notre invité Fabien Roussel.
L'aventure a un visage. Sur les eaux de la mer de Chine, le profil d'un pirate bien connu se dessine dans l'ombre d'une cabine de pilotage. Corto Maltese est de retour. Bastien Vivès et Martin Kenéen s'emparent du mythique aventurier Hugo Pratt et l'emmènent des rues bondées de Tokyo aux plus hautes montagnes d'Amérique du Sud. Découvrez le gentilhomme de fortune comme vous ne l'avez jamais lu. Corto Maltese, Océan Noir. Un roman graphique Casterman à retrouver en librairie.
Chez Signia, nous savons que votre audition est précieuse. Elle vous permet d'être libre. Libre d'échanger, de partager, de vous épanouir. Depuis 140 ans, Signia développe des aides auditives de haute technologie. Invisible, connecté, rechargeable et au design incomparable. Pour redécouvrir le plaisir d'entendre, pour une vie riche, active et audacieuse, pour votre bien-être, Signia, fabricant d'aides auditives. L'audition, c'est Signia. Rendez-vous sur signia.net, dispositif médical CE.
France Inter aime
The Artist, la nouvelle émission de Nagui, samedi 11 septembre à 20h40 sur France 2.
Ils ont écrit leurs paroles, ils ont composé leur musique, ils ont un univers bien à eux. Leur talent est en jeu, leur carrière dépend de vous. Ensemble, nous découvrirons l'artiste complet, The Artist.
Retrouvez The Artist, samedi 11 septembre à 20h40 sur France 2.
Je compte sur vous.
Un partenariat France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Via Santé.
la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Vigilance orange sur 32 départements, Sébastien.
Oui, une première salve orageuse a balayé la Bretagne et l'Aquitaine ce matin. Elle est d'ailleurs en train de glisser vers la Basse-Normandie. Et une deuxième vague d'orages et d'averses va se mettre en place cet après-midi entre le Calvados, le Finistère, le Limousin, les Pyrénées et le bassin aquitain. Cette deuxième vague orageuse va progresser lentement mais sûrement vers l'est, abordant le bassin parisien et l'Auvergne en fin de journée. Et ces orages seront localement forts, porteurs de grêle et pourront donner beaucoup de pluie en quelques heures, notamment sous des cellules peu mobiles. Cette nuit, cette vague gagnera également le Languedoc-Roussillon, région qui sera la plus arrosée, avec des risques de pluie intense et d'inondation. Pour toutes ces conditions, Météo France a placé 32 départements entre les Pyrénées, le Languedoc, la Sarthe, Lyon et l'Île-de-France en vigilance orange jusqu'à demain matin. Pour l'est du pays, c'est encore le soleil et la chaleur qui vous attendent cet après-midi. Conditions estivales des Hauts-de-France, au bassin parisien, au Gard, jusqu'aux frontières de l'est. Pour les températures, elles sont partout au-dessus des valeurs de saison. 25 degrés à Vannes et Biarritz, 29 degrés à Lille, Rouen, Mulhouse ou encore Toulouse, 30 degrés pour Le Mans, 31 degrés à Paris, Grenoble et Dijon. Et on ira jusqu'à 32 degrés à Clermont-Ferrand et Aix-en-Provence.
Et il est 13h30, l'invité du 13-14, Fabien Roussel.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
Six candidats de gauche déclarés ou probables à la présidentielle. Un écologiste, on verra ce que donne la primaire à partir du 16 septembre. La candidature d'Anne Hidalgo sera officialisée dimanche. Un candidat d'extrême gauche et parmi ceux qui se sont déjà officiellement lancés, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg. Et pour le Parti communiste, notre invité du jour. Donc bonjour Fabien Roussel.
Bonjour à vous.
01 45 24 7000, l'appli France Inter. Pour vos questions, auditeurs d'Inter, à Fabien Roussel jusqu'à 13h45. Vous publiez en cette rentrée ce livre Ma France aux éditions du Cherche Midi. Il faut qu'on soit capable de s'adresser aux classes populaires sans rien omettre de ce qui les préoccupe. Souveraineté, sécurité, colère sur l'industrie, suppression d'emplois. Sécurité. Je voudrais commencer par là parce que c'est un thème sur lequel vous insistez et qui peut surprendre. Deux morts de plus dans deux fusillades hier soir à Marseille. Fabien Roussel, vous préconisez 30 000 policiers, police de proximité supplémentaires. Qu'est-ce qu'ils feraient par exemple à Marseille, ces policiers ?
Il y a une énorme demande de la part de nos concitoyens de protection, de sécurité. Elle existe, elle est réelle, cette demande. Tellement on a abîmé non seulement les services de sécurité intérieure, mais aussi parce qu'on a déshabillé nos territoires, nos villes, de nos services publics.
Et vous dites les gens des quartiers populaires aussi ont droit à la tranquillité.
Et donc il y a besoin de réinvestir dans toutes ces communes, dans les villages comme dans les grandes villes, comme à Marseille. Il y a besoin d'une police nationale de sécurité de proximité, mieux formée, qui vit dans ces quartiers, qui tisse des liens dans ces quartiers, qui connaît les gens qui y habitent. Mais je sais que ça ne suffira pas.
Parce que quand on dit police de proximité, on ne sait pas bien ce que ça recouvre.
Bah, ça existait avant.
Ouais.
C'est revenir à cette police de proximité qui connaissait les jeunes. Ça a été dit dans les témoignages, justement, des habitants de ces quartiers de Marseille qui disaient, mais avant, les policiers, on les connaissait. On pouvait, ils nous tutoyaient, on se parlait, ils connaissaient nos prénoms. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est la guerre. Eh bien, il faut restaurer la tranquillité publique, la paix sociale. Ça passe par des moyens de police de proximité, mieux formés. Ça passe aussi par plus d'éducateurs, par plus de moyens dans nos écoles, par des équipements culturels, sportifs. C'est tout ça la République et c'est tout ce qui manque. Il faut marcher sur ses deux jambes.
Mais pardon, cette police nationale de sécurité, elle fait quoi ? Elle va aussi au contact des dealers, elle va au contact des guetteurs, elle va par exemple mettre la pression, comme le suggère le ministre de l'Intérieur, sur les consommateurs aussi ?
Mais j'ai eu l'occasion justement, parce que j'ai voulu souhaiter prendre à bras le corps cette question de sécurité, j'ai rencontré beaucoup les syndicats de police, de gauche notamment, parce qu'ils sont très demandeurs.
Parce qu'on vous a reproché d'être allé à la manifestation de soutien aux policiers
le 19 mai. Il y a aussi des syndicats de police, de commissaires, qui sont très préoccupés qu'il n'y aurait que la droite et l'extrême droite qui s'occupent de ces questions-là.
Eh bien, et non, c'est toujours un peu gênant quand on est de gauche de parler de sécurité, Fabien Roussel.
Moi, je ne suis pas du tout gêné de pouvoir aborder ces questions de tranquillité publique parce qu'il y a une attente forte de la part des classes populaires, des travailleurs, de ceux qui habitent dans ces logements collectifs, comme de ces retraités qui habitent dans des maisons à la campagne. Ils veulent veulent se sentir protégés en sécurité. Ça passe, je l'ai dit, par des moyens de police, de gendarmerie, mais aussi par plus de république, de services publics. Et c'est pour ça que quand j'ai rencontré ces syndicats de police, ils m'ont dit, eux, justement, qu'avant, ils avaient des liens beaucoup plus étroits avec la population et que chacun doit faire son boulot. Il y a ceux qui tissent des liens de proximité avec les habitants, mais il y a aussi besoin de moyens d'enquête, il y a besoin de s'attaquer aux réseaux financiers de la drogue, il y a besoin de s'attaquer aux gros bonnets, il y a besoin de commissariats, il y a besoin donc d'une hiérarchie qui soit tout entière dédiée à ce problème-là, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, par exemple, la drogue, si on s'attaque pas aux banques, par là où transite l'argent et le blanchiment de l'argent, eh ben, on pourra toujours taper dans les fourmilières, mais on n'arrêtera jamais les trafics.
Question concrète, très peu de caméras de sécurité dans les quartiers nord de Marseille, on en met davantage ou pas ?
Je suis, moi, plutôt partisan pour en mettre. Je sais que ça n'arrête pas et ça n'empêche pas les vols, mais ça permet d'enquêter. Et parfois, ça peut empêcher des voyous de passer à l'acte. Et donc, c'est utile. C'est pas la seule réponse. C'est comme dans un orchestre. Il faut savoir jouer de tous les instruments. Ça fait partie des instruments qui peuvent être utiles.
Contre l'islamisme radical, la laïcité, que feriez-vous, président ? Vous citez la neutralité des agents du service public, les certificats de virginité pour s'y opposer. C'est dans la loi séparatisme récemment adoptée. Qu'est-ce que vous feriez de plus, Fabien Roussel ?
Ça fait partie des quelques articles que nous avons soutenus dans ce texte de loi. Mais j'ai eu l'occasion de le dire, et je le dis d'autant plus fortement qu'il y a ce procès immense qui va se tenir, la menace terroriste, djihadiste, existe dans notre pays. L'islamisme radical, terroriste, existe et nous devons en prendre conscience, y mettre les moyens pour pouvoir faire reculer cette idéologie, pour pouvoir comprendre aussi comment elle s'installe dans le pays. Ce procès doit nous aider à comprendre. Comment des êtres humains peuvent passer à l'acte, à la barbarie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ils ont pu fomenter de tels actes ? Et donc, pour cela, nous devons, ce procès doit servir à ça, d'ailleurs, à comprendre. Mais quand je dis que nous prenons conscience de cette menace, c'est que nous voulons aussi y mettre les moyens et garantir une république laïque et sociale. Et la République sera laïque si elle est sociale. Et c'est le cœur de mon projet en tant que président de la République. C'est ça que je veux mettre en œuvre. Une République laïque et sociale.
Est-ce qu'une partie de la gauche a perdu la boussole sur ces questions de laïcité, Fabien Roussel ?
En tout cas, je souhaite, moi, avoir le courage de m'emparer de ces questions-là. Parce que
Vous dites que ça fait partie des sujets qui me distinguent de Jean-Luc Mélenchon, par exemple.
Il y a des différences à gauche parmi les différents candidats. Et nous le savons, il y a ceux qui s'attaquent au capitalisme et ceux qui s'en accommodent. Et moi, je ne voudrais pas retrouver dans mon pays une gauche qui l'emporterait, mais qui mettrait en œuvre les mêmes politiques qu'on a connues jusqu'à maintenant.
Il y a une partie de votre camp qui est islamo-gauchiste ?
Moi, je ne reconnais pas ce terme. Ouais, franchement, en tout cas, moi, je me suis clairement exprimé pour ne rien céder à cette idéologie fasciste. Nous sommes de cette trempe-là. Nous l'avons combattue, nous, le parti de la résistance et des fusillés. Et donc, nous ne céderons rien, pas un mètre à cette idéologie-là. Nous y mettrons tous les moyens. Et c'est pour ça que je vous parle d'une république laïque et sociale. Car aujourd'hui, il faut la reconstruire.
Question de Denis au Standard de France Inter. Bonjour Denis.
Oui, bonjour monsieur. Oui. Je précise d'emblée que je suis militant de gauche et électeur de gauche depuis toujours. J'aimerais dire à Fabien Roussel que je suis extrêmement déçu, comme tout un peuple de gauche, que le Parti communiste n'ait pas œuvré afin d'avoir un candidat unique qui puisse se laisser quelque espoir d'un candidat de gauche au second tour. Car l'enjeu, en fait, est d'importance. Nous risquons d'avoir à nouveau un duel Macron-Le Pen, ce qui n'est pas du tout souhaitable. Et bon, je comprends que Fabien Roussel ait besoin de faire entendre la voix du Parti communiste, mais le temps d'une campagne, ensuite, tout tombera dans les oubliettes et c'est très regrettable.
On va laisser Fabien Roussel vous répondre si vous voulez bien.
qu'il désespère tout un peuple de gauche.
Alors, je sais que la question vous agace, je précise qu'il y en a plein sur ce thème au Standard.
Ah non, ça ne m'agace pas du tout, je la comprends cette question. Mais moi, je rappelle qu'à gauche, nous avons des différences. Il y a toujours eu différentes sensibilités et différents projets pour la France à gauche. Et si c'est pour avoir un candidat unique à gauche, comme en 2012, avec l'alliance du PS et des Verts, et refaire en France la même politique que celle menée par cette majorité et le président Hollande, je n'en veux pas. Il y a une urgence sociale dans notre pays, une urgence écologique, une urgence démocratique. Il faut s'attaquer à cela, on n'y arrivera pas par des demi-mesures. Je souhaite être le président de la République qui va s'attaquer à ce modèle économique qui met la finance, les profits au cœur de tout. Je veux reprendre le pouvoir à cette oligarchie financière composée de une minorité d'hommes, quelques femmes, qui maîtrisent, qui dominent l'économie, la politique et même les médias. Je veux leur reprendre le pouvoir. Il est temps de rendre la République aux Français. Et c'est pour ça que à gauche, nous sommes différents. Et je ne veux pas revivre ce qui a tant désespéré la gauche. Je veux apporter justement une note d'espoir et dire que oui, le monde du travail peut reprendre le pouvoir en France. Et c'est le cœur de mon projet, c'est ce qui me distingue de tous les autres.
À propos de la gauche, alors, les intentions de vote, elles peuvent évoluer. Vous êtes très bas pour l'instant, 1,5% dans le dernier Ipsos. Il y a une chose qui m'a frappé dans ce sondage. Si on additionne les intentions de vote des différents candidats de gauche, on arrive à 32%, Fabien Roussel, même pas un tiers de l'électorat. Dans le livre, vous écrivez, depuis 65, jamais la gauche n'a gagné une présidentielle quand son score global était inférieur à 43%. Autrement dit, 10 points de plus. Comment ça se fait que la gauche ait un étiage si bas?
Mais justement, pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est que quand la gauche, les socialistes et les écologistes notamment, étaient au pouvoir, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont énormément le déçu. Ils ont tourné le dos aux attentes des milieux populaires, de la classe ouvrière, de l'électorat de gauche, qui s'est détourné d'eux. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On recommence avec les mêmes promesses qui ne seront pas tenues. Rappelez-vous, mon ennemi, c'est la finance. Et derrière, on pactise avec. Mais ça, jamais plus.
La gauche n'a pas La gauche a abandonné certains sujets chers à l'électorat populaire. Elle n'a pas été assez à gauche.
Non seulement je veux porter l'ambition de passer un pacte de progrès pour la France avec le monde du travail, avec la jeunesse, reporter cet espoir, mais je veux aussi avoir le courage de répondre aux angoisses des Français sur les questions de sécurité. Je porte ce discours courageux sur la vaccination.
Propos de vaccination obligatoire pour les soignants à partir de la semaine prochaine, vous validez ça? Mais 300 000 soignants pas encore vaccinés, qu'est-ce qu'on en fait de ces soignants?
Eh bien nous devons tout faire pour les convaincre et qu'il y ait à terme une obligation pour qu'ils soient tous vaccinés comme ça existe déjà aujourd'hui. Il y a des vaccins obligatoires pour les soignants dans des professions, eh bien que à terme ces vaccins soient obligatoires. Oui, ça me paraît tout à fait normal quand on doit lutter contre une maladie. Ma hantise, c'est que je rencontre demain des personnes qui perdent un être cher parce que le vaccin serait rentré dans l'hôpital.
Parce que le virus serait rentré dans l'hôpital.
Voilà. Ouais. Et donc, nous devons aujourd'hui nous vacciner tous largement. Mais je reproche à ce gouvernement de ne pas avoir créé ce climat de confiance, de ne pas avoir engagé un combat collectif de toute la nation pour faire en sorte que tout le monde soit vacciné. Et il a utilisé cette arme terrible de dire si vous n'êtes pas vacciné, vous perdez votre boulot, vous perdez votre salaire. Ce n'est pas juste.
Boulot, c'est pas inscrit dans la loi. Hein.
Ouais, mais d'accord, c'est tout comme. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas comme ça que l'on fait. Ça, c'est une démarche. Macron, c'est celui qui fait de ce combat un combat individuel, quand le combat, il doit être collectif.
Daniel au Standard.
Oui, allô?
Oui, nous vous écoutons, bonjour.
Oui, moi je voudrais poser la question à Fabien Roussel. Bon, j'ai été militant communiste de 1982 à 2002, le jour où un dénommé Guesso a ouvert le capital d'une entreprise publique, très belle entreprise d'ailleurs, Air France, pour ne pas la citer. Je voudrais lui me poser la question, parce que son programme, je veux bien, s'il veut peut-être qu'on revienne...
Allons-y sur la question, s'il vous plaît, on arrive au terme.
Dehors que dedans. S'il est pour la socialisation des grands moyens de production et d'échange, c'est-à-dire pour reprendre le programme du CNR de 1945 avec la nationalisation, Air France, Renault, tous les banques.
Fabien Roussel.
La grande distribution.
Oui, monsieur, quand je dis qu'il ne faut plus refaire ce qui a échoué, ce qui a désespéré la gauche, c'est y compris cela. Il faut que le monde du travail se réapproprie ses outils de travail, les moyens de production pour pouvoir les mettre au service de la reconstruction du pays, de notre industrie et pouvoir décider nous-mêmes de comment nous produisons, mais aussi de comment sont distribuées les richesses.
Et les autoroutes, comme suggère Arnaud Montebourg?
Mais pas que.
On nationalise aussi.
Mais bien sûr, ça a été une erreur terrible. Et d'ailleurs, Montebourg dit ça aujourd'hui, lui qui a participé au gouvernement de Hollande avant. Mais les élus communistes, ces députés, ces sénateurs, qui se sont farouchement opposés à cette privatisation. Et nous avons tous les ans déposé un texte de loi pour revenir dessus. Eh bien, moi, je tends la main à Arnaud Montebourg. Allons-y.
Et d'ailleurs, vous avez un accord sur le nucléaire aussi, comme autre grand sujet. Il pourrait y avoir qu'un seul des deux candidats entre Montebourg et vous?
Mais tout à fait. Moi, j'aimerais bien que Arnaud Montebourg fasse le choix de venir soutenir ma candidature et qu'on travaille ensemble. Je lui dirais que on a quand même une légitimité aussi avec ce réseau de maires, de conseillers généraux, régionaux, de députés, de sénateurs que nous avons, qui fait qu'on a quand même une petite légitimité.
Merci Fabien Roussel. Ma France, heureux, solitaire et digne, c'est aux éditions du Cherche Midi. Merci d'être venu dans les studios de France Inter. 13h45.
France Inter. Le 13-14.
Et bonjour Jean Lebrun.
Bonjour camarade Duvic.
Le vif de l'histoire à suivre, le mystère mussoliniste, un des livres importants cette rentrée.
Ouais, de Maurizio Serra, un nouvel académicien français.
Le feuilleton, alors que deux nouvelles fusillades ont fait deux morts à Marseille ces dernières heures. Une semaine dans la vie de la famille Kessassi, Brahim, tué alors qu'il avait 22 ans. Parole à sa mère aujourd'hui. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
En ce jour d'ouverture du procès des attentats du 13 novembre, vous avez rencontré une rescapée de l'attaque contre le Bataclan. Elle s'appelle Catherine Bertrand. Elle est graphiste, elle a 41 ans.
Catherine Bertrand, c'est un nom d'emprunt. Elle n'a pas été blessée physiquement ce soir-là, mais les blessures psychologiques sont profondes et elle souffre toujours de stress post-traumatique, des flashbacks qui surgissent et l'empêchent de dormir. Une phobie de la foule, phobie des transports en commun. Dès lors, depuis bientôt 6 ans, elle se protège.
J'ai décidé de travailler à mon compte, donc je reste chez moi la plupart du temps. Pour justement éviter les bruits, les sons, les cris, tout ce qui pouvait me faire penser à cette soirée. Mais fatalement, quand je sors de chez moi, je peux pas les éviter, donc il y a encore des grosses difficultés par rapport à ça. Et la dernière en date, c'était le feu d'artifice du 15 août où j'ai pété un plomb, quoi.
C'était à quel endroit ?
C'était en bord de mer, il y avait un feu d'artifice, sauf que je ne savais pas quand il commençait. Puis d'un coup, il a commencé, là, ça m'a fait paniquer, alors que je savais très bien ce que c'était. Mais voilà, il y a une partie de mon cerveau qui se met en alerte, qui pense que je vais mourir. Et j'essaie de le rassurer, mais il n'y a rien à faire, quoi.
Donc vous êtes ramené au bruit des kalachnikovs,
voilà.
Au bruit des balles.
Ouais. Les pétarades, tout ce qui est les claquements de portes, les ballons qui éclatent à un anniversaire, les bougies d'anniversaire qui sentent un peu l'odeur de la poudre, tout ce genre de choses. We have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more.
C'est la voix de Louis Armstrong qui a choisi de nous faire écouter Catherine Bertrand, We Have All The Time In The World.
Un titre composé par John Barry pour la bande originale de James Bond au service de Sa Majesté. Année de sortie 1969, mais ce n'est qu'en 2016 que Catherine Bertrand a découvert cette chanson grâce à l'un de ses amis.
Peut-être que cet ami pensait que ça me ferait du bien de l'entendre. Vous connaissez bien Louis Armstrong, donc... Il m'a fait écouter cette chanson et d'un coup, j'ai une révélation. Enfin, ça a été quelque chose d'extrêmement fort où je me suis sentie en totale symbiose avec les paroles et la musique. C'est un chanteur qui sourit en chantant aussi. Et cette bonne humeur qu'il transmet, elle me transporte complètement. Et donc, cette chanson, elle donne beaucoup de sens dans ma reconstruction personnelle. Elle m'aide énormément à aller de l'avant et à dégager le négatif.
Elle nous dit quoi, cette chanson ?
Elle nous dit qu'on a tout le temps du monde. We have all the time in the world. Just for love, nothing more, nothing less, only love. quand je suis sortie du Bataclan, pendant plusieurs mois, tous les jours, c'était comme si c'était mon dernier jour, en fait. Je le vivais comme ça, où j'avais l'impression de mourir le lendemain. Et quand je suis trop submergée par mes émotions, je passe cette chanson exprès pour me recentrer. Lui, il est là pour me dire « Calme-toi, on a tout le temps du monde, tu vas pas crever demain. T'as encore plein de projets à faire. Et profite de l'instant présent et aime tes proches. Il n'y a que ça qui importe dans ce monde, c'est vraiment ça la base. » Pas de stress. Voilà, comme ça, ça me calme direct.
Cette chanson, elle va vous accompagner pendant le procès ?
Ah oui, complètement. Je vais me réveiller avec cette chanson, je pense. Pour continuer un peu ma thérapie et affronter la journée de procès dans les meilleures conditions possibles.
Louis Armstrong qui sourit en chantant « We have all the time in the world ». Choix de la graphiste Catherine Bertrand, rescapée de l'attentat au Bataclan.
Et autrice d'un livre, un carnet dessiné chronique d'une survivante, publié aux éditions de La Martinière.
Le feuilleton, une semaine dans la vie d'Amine Kessassi, jeune homme des quartiers nord de Marseille, qui a perdu son frère dans des règlements de compte. Aujourd'hui, parole à sa mère au micro de Mathilde Vinceneux. Son fils Brahim est mort à 22 ans, épilogue d'une descente aux enfers qui avait commencé à l'adolescence. La mère a fait beaucoup pour récupérer son fils, cela n'a pas suffi.
En fait, moi, je connaissais pas c'est quoi la drogue, c'est quoi le cannabis, etc. Donc, je voyais des trucs bizarres. Et je vois la police tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et surtout, quand je voyais les jeunes, ils se font frapper par des grands en bas des immeubles, des bâtiments. Et moi, je les regardais d'en haut et ça me faisait vraiment de la peine. Je pleurais pour eux, etc. Et de là, j'ai compris que c'est pas une vie.
Et là, vous avez décidé, vous êtes dit, on va partir d'ici.
On va partir. Et quand j'ai décidé, en fait, j'ai demandé l'avis de personne, même pas leur père. Et hop, déménagement, il s'est fait du jour au lendemain, on a quitté le quartier.
Donc à cette époque-là, Brahim, il avait...
14 ans, 15 ans.
13 ans, 14 ans, oui, 13 ans, 14 ans, ouais, c'est ça. Il commençait à rester un peu avec les jeunes en bas. Et moi, je lui interdis. Tous les soirs, en sortant de son collège, au lieu qu'il rentre à la maison, il va d'abord dans les quartiers à Frévalon. Lui, il parle avec ses collègues, ses camarades, etc. Jusqu'à que c'est moi qui prends le véhicule, je vais au quartier, je le reprends et je le ramène à la maison.
Ça a duré combien de temps, ça ?
Quand même des années.
Ouais, ouais,
des années. Même une fois, j'ai appelé la police. Ils sont venus, ils m'ont dit, on n'a jamais vu une maman des quartiers. J'ai dit, oui, moi, je le sais.
C'est quand même vrai que tu as fait plus de descentes à Frévalon que la police eux-mêmes. Hein.
J'essaye, je propose, tiens, prends mon restaurant, fais un truc, fais ça. Je l'ai fait rentrer dans un chantier et il a travaillé dans le chantier. Donc, je voyais que mon fils, il est influençable. Et j'ai pas pu, malheureusement, j'ai pas. J'ai essayé, de toute façon.
Il est allé en prison ?
Oh oui, c'est ça.
Il y a eu un jour, il s'est fait tirer dessus.
C'était combien de balles ?
9 balles. Il avait 9 balles. Il s'est fait tirer le soir. Et le lendemain, moi, le matin, j'étais avec mes clientes, je préparais le petit-déj. Et Amine, ils m'ont regardé, Il m'a dit, maman, ça va, assieds-toi. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a servi un verre d'eau. Il m'a dit, maman, n'aie pas peur. Il y a eu un petit accident.
Un accident de voiture.
Ouais, de voiture. Et Brahim, il a, je sais pas, au bras, une fracture. Je sais pas ce qu'il m'a dit.
T'as menti ?
Oui. Oui, ouais, parce que même moi, j'y croyais pas encore. Me dire que mon frère a reçu 9 balles et qu'il était toujours vivant, soit intensif aux urgences, je me disais, je peux pas encore le dire à maman. Faut que j'attende que ça soit quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, j'ai pas eu le courage de le faire.
Donc, je suis allée à l'hôpital Nord, c'est ça. Il était sur un fauteuil ouvert de partout. Il m'a même pas fait une bise, peu cher, tellement il était... Il voulait même pas que je le voie. Il m'a dit, pourquoi, c'est qui que t'as dit, maman ? J'ai dit, Brahim, ça se cache pas quand même. Je le trouvais très nerveux, très, très nerveux. Je voyais ses blessures de partout, mon fils, il a changé complètement.
Je voyais le trou là, là, là. Pour moi, je ne vous cache pas. Déjà, il était mort, mon fils.
Une semaine dans la vie de la famille Kessassi, grâce à Mathilde Vinceneux, réalisation du feuilleton Lucie Lemarchand, quatrième épisode demain.
France Inter. Le 13-14.
Le Vif, Jean Lebrun, parmi les livres marquants de cette rentrée au rayon histoire, celui consacré à Benito Mussolini par Maurizio Serra. Mussolini, est-ce qu'il en reste? Les Italiens s'accommodent assez bien, au fond, de vivre près de monuments du fascisme, préservés quand ils ne sont pas restaurés. On a appelé ça le fascisme de pierre.
Bah, il existe aussi un fascisme souriant, qu'on connaît ici, hein, qui consiste à répéter « Ah, oh, combien la vie était plus sûre quand il était là !» Et de fil en aiguille « Ah, s'il revenait, puis... » Ah, quand il reviendra. Ça s'appelle, une tendance très prégnante aujourd'hui, le désir d'autorité. Mais si on a besoin en effet de dirigeants qui sachent parler au peuple, est-ce qu'on a besoin de dictateurs qui parlent à sa place?
D'où l'intérêt des livres d'histoire consacrés aux dictateurs, comme celui de Serra.
Alors Serra, c'est un diplomate italien, retraité, mais tout jeune élu à l'Académie française. Et il peint avec élégance son personnage comme quelqu'un d'inaccompli à qui il manque toujours quelque chose. Mussolini sent que le bruit qu'il fait, s'il sature l'espace public, n'arrive jamais à l'occuper totalement. Parce qu'il y a dans le tableau l'église. On se souvient du film d'Ettore Scola, Une journée particulière. Quand le pape parle à la radio, les mères ont le réflexe de plier les genoux de leur bébé. Ils ne feront pas de parfaits jeunes fascistes. Et puis, il y a Victor Emmanuel III, que Mussolini n'a pas osé renverser. Alors Serra en fait un portrait désopilant, par petites touches dans les cérémonies. Le duce, qui est puissant, large d'épaule, doit marcher derrière ce roi gnome, nain, dont il sait que la capacité de dissimulation est aussi démesurée que sa taille est contrainte.
Et puis, 1933, arrive au pouvoir en Allemagne Hitler.
Oui, le livre de Serra procède par nœuds. Ce sont les moments où plusieurs possibles s'ouvrent devant Mussolini et où il choisit de prendre son risque d'un côté ou de l'autre. Alors, jusqu'en 35-36, Mussolini est prêt à continuer de travailler avec les démocraties, les alliés de la Grande Guerre. Il se porterait même candidat pour assister la France et l'Angleterre si Hitler se mettait en tête de remilitariser la rive gauche du Rhin. Seulement, il faut que l'Italie ait sa part du gâteau. Depuis longtemps, dit Mussolini, les Italiens émigrent pour devenir des travailleurs humiliés chez les autres. Il veut, lui, qu'il retrouve le rôle des Romains d'autrefois. Il entend construire un empire en réunissant la Cyrénaïque et la Tripolitaine en Libye, en s'établissant plus fortement en Érythrée et en Somalie et en conquérant l'Éthiopie.
Et le rêve de Mussolini, 35-36, tourne au cauchemar.
La résistance des troupes du Négus s'avère plus coriace que prévu. Le Duce va employer les grands moyens, les gaz chimiques, jusque contre les civils, les massacres jusque dans les monastères. Parce qu'une des difficultés de cette guerre, c'est qu'en effet, elle est menée contre un pays largement chrétien. Et membre de la Société des Nations, créée pour assurer la sécurité collective, l'Assemblée de la SDN, devant laquelle a parlé le Négus, vote des sanctions. Et Mussolini n'admet pas que l'Angleterre et la France ne le soutiennent pas. N'ont-elles pas constitué chacune leur empire sans crime? Au printemps 36, le général Graziani, qui avait remis en jeu en Éthiopie son titre gagné en Libye de boucher numéro 1, finira par l'emporter. Mais les ordres qui ont déclenché les horreurs portent souvent la signature de Mussolini qui commence à devenir ouvertement raciste. Et juste avant, Hitler avait remilitarisé la rive gauche du Rhin. Et Mussolini avait constaté à cet instant que les démocraties, qui voulaient être fortes face à lui, se montraient débiles face à Hitler, et il en tirera les conséquences. Serra m'a appris l'existence de textes épars, rédigés sur le tard par Mussolini, et intitulés « Pensées pontiennes et sardes ». J'y lis ceci. Écoutez bien, Bruno.
Oui.
« Tout ce qui devait arriver est arrivé, car si cela ne devait pas arriver... ce ne serait pas arrivé. Hein, le beau livre de Serra, je vous rassure, il est clair, même s'il s'appelle « Le mystère Mussolini ».
Et il est édité chez Perrin. Merci Jean Lebrun et bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré, quel programme aujourd'hui?
Nous allons protéger la biodiversité marine aujourd'hui.
À tout de suite.